Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'Opéra de Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, après l'histoire d'un seigneur perdu dont on attendait le retour dans La Dame Blanche de Boieldieu il y a 2 ans. La metteuse en scène Louise Vigneault revient à Rennes pour Zaïd, opéra de Mozart, histoire d'une esclave qui s'appelle Zaïd, esclave du sultan Soliman, amoureuse d'un autre esclave, une histoire de jalousie pour le sultan, de quête de liberté pour ses esclaves qui vont s'enfuir, de condamnation à mort et de grâce accordée, mais aussi une histoire à trous, puisque ni l'ouverture, ni le dénouement de l'histoire, ni les parties parlées ne nous sont parvenus, le genre et le singspiel qui alternent le parler et le chanter. Et de cela et de votre histoire, nous allons parler ensemble, Louise Vigneault. Bonjour.
Bonjour.
Ça compte de revenir là où vous aviez créé votre premier opéra, puisque c'est surtout le théâtre qui est votre terrain de jeu. Mais voilà, il y a 2 ans, ici à Rennes, vous étiez venu créer un premier opéra. Ça compte de revenir là où ça a commencé, cette seconde histoire pour vous ?
Ah oui, bien sûr. Et puis surtout, cette première histoire était un peu particulière, puisque la première partie de la création avait eu lieu à Compiègne. Et moi, quand j'étais revenue à Rennes, c'était pour une captation. Donc je n'avais pas rencontré le public. Quand l'opéra s'est vraiment joué à Rennes la saison dernière, comme c'était une saison très particulière pour nous, où tous les spectacles se reprenaient, etc., je n'avais pas pu être là. Donc j'avoue que revenir pour cette fois être vraiment en création avec l'équipe de l'opéra que j'aime beaucoup et qui est vraiment très exigeante, très professionnelle, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Et pour cette fois, rencontrer vraiment le public, là, j'avoue que c'est un vrai plaisir.
Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas une nouvelle pandémie qui vienne contrarier
les plans. Ah non,
on
touche du bois, on touche tout, c'est pas possible.
Votre Zaïd sera donc à l'Opéra de Rennes du 6 au 12 février, avant d'aller à Nantes, à Quimper et à Besançon. Et j'insiste sur le votre Zaïd, puisque je l'ai dit, comme c'est une histoire à trous, il vous a fallu, avec une autrice et un compositeur, remplir les trous de Mozart et de son librettiste Schachner, qui ont disparu avec le temps. Pourquoi cette histoire vous a intéressé, justement, cette histoire où il y avait des absences ?
Alors, je dois déjà dire que l'idée ne vient pas de moi, mais vient de Mathieu Ritzler, le directeur de l'Opéra de Rennes, qui justement cherchait un opéra, disons classique du 18e autour de Haydn, Mozart, a eu cette très belle idée et très créatrice de travailler sur Zaïd. Et je crois qu'il me l'a proposé parce qu'il sait que j'aime les défis, notamment parce qu'il y avait eu La Dame Blanche et que déjà sur La Dame Blanche, on s'était emparé du livret parlé pour le réécrire. Alors cette fois en gardant l'histoire de La Dame Blanche, mais en modernisant le livret parlé pour qu'il ait plus de sens aujourd'hui. Donc je crois que c'est je suis à peu près sûre que c'est pour ça qu'il m'a demandé de travailler sur Zaïd, pour ce défi du livret à trous. Après, c'est vrai que c'est un opéra très particulier, parce que le livret parlé, en quelque sorte, on ne sait pas s'il est d'origine ou pas. Le livret, pour ce qui est des airs chantés, a priori, il est d'origine, puisqu'évidemment, le compositeur travaille avec l'auteur du livret. Mais pour ce qui est des scènes entre les airs, a priori, elles ne seraient pas d'origine. Elles auraient été écrites, il y a des hésitations, on ne sait pas trop par qui, mais bien plus tard, après la mort de Mozart, quand Constance, sa femme, a essayé de le faire jouer. Donc c'est vrai que c'est un opéra entouré de mystères.
Justement, c'est ça qui vous a intéressé. Alors, comment vous y êtes pris avec le compositeur Robin Melchior et surtout donc avec l'autrice Alison Cosson pour combler les trous. Et comme vous l'avez dit, Louise Vigneault, faire en sorte que cet opéra de la fin du 18e, il nous parle aujourd'hui, il soit contemporain. C'est-à-dire que l'histoire que j'ai décrite au début, ce n'est pas exactement celle que les spectateurs ici à Rennes vont voir.
Même pas du tout.
Pas du tout. On est sur une île déserte avec des gens beaucoup plus jeunes.
Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir et tout à voir en même temps. C'est-à-dire que c'est vrai que cette histoire dans l'univers du sérail, avec un rapport à l'orientalisme et... au monde musulman, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que ça cherchait à dire au siècle des Lumières et chez Mozart.
Parce que les esclaves sont des chrétiens et sont donc prisonniers d'un sultan musulman, du coup.
Et donc, aujourd'hui, ça ne me semblait plus avoir tellement de sens de le poser comme ça. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était la question de l'ailleurs. et qui est très très forte au 18e, c'est-à-dire que Montesquieu, il y a les lettres persanes, Voltaire, il y a Zadig, et il y a aussi Candide, où on part ailleurs, on va voir ailleurs pour apprendre.
Et Mozart, deux ans après Zadig, il y a l'enlèvement au Sérail, il y a son autre opéra turc.
Exactement, et Mozart, et voilà. Donc il y a quand même cette idée très forte au 18e et au siècle des Lumières d'aller se projeter dans un ailleurs total, puis à Marivaux aussi, pour revenir nous regarder nous-mêmes. Donc c'est cette idée de l'ailleurs que j'ai gardée,
pas du tout du voilà. Sérail.
Après, le Sérail, il revient aussi parce qu'on a une idée d'enfermement. La question du Sérail, c'est le fait d'être enfermé. Donc nous, il a fallu qu'on se dise où est-ce qu'on est ailleurs et où est-ce qu'on est au Sérail. Et finalement, on a eu cette idée d'une île lointaine qui représenterait et l'ailleurs et le Sérail, puisque de cette île, on ne sort plus. On ne sort pas quand on y est entré. Voilà, et toute la question, c'est comment en sortir.
Mais comment justement, donc, cette autre proposition, elle vient rencontrer la musique déjà écrite, que vous n'avez pas touchée, sauf on y reviendra sur le début et la fin, mais puisque les partitions de Mozart ont traversé le temps, comment cette autre version de l'histoire vient changer ou pas les musiques?
Alors, c'est vrai qu'on est parti... le challenge, c'était de ne pas toucher du tout aux airs de Mozart et de garder et les airs et les textes sur les parties chantées. Ce qui est assez fort dans cette musique, c'est que ce sont des airs qui ne font pas avancer l'action. Ce sont des airs qui s'interrogent, qui interrogent la personne sur elle-même, qui interrogent l'autre sur elle-même, mais qui ne font pas avancer l'action. Donc, c'est un peu des moments... suspendu, de questionnement, de remise en question et de réflexion philosophique ou sur le monde ou sur soi. Donc voilà, c'était assez, entre guillemets, plus facile d'aller se mettre dans les trous et de recomposer. Après, oui, c'est vrai que ça a été un exercice assez jouissif de réinvention d'une histoire qui serait, je dirais en fait, il n'était pas question de remplir des trous, mais il était plus question... de réinvestir complètement cet opéra. Et je ne sais pas comment dire, pour moi, c'était plutôt d'aller au fond de la musique de Mozart. Pas de réinventer autre chose ailleurs, mais d'inventer avec lui et pour lui et d'aller au bout de la démarche. C'est un opéra qu'il disait sérieux.
C'est une des raisons pour lesquelles il a été abandonné.
Voilà, c'est ça, parce qu'on lui demandait du divertissement. Mais en fait, lui, il voulait aller au bout de quelque chose de sérieux. Sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute, on ne sait pas, parce que Mozart, il est plein de mystères. Et même dans ses correspondances, on a du mal à comprendre qui est cet être complètement vif. Et voilà. Mais il y a quelque chose dans les idées philosophiques, aussi sans doute de la franc-maçonnie, de l'initiation, des lumières, etc. Et nous, c'est vrai que c'est par cette...
Vous avez gardé l'idée du conte philosophique.
Hein. Ah bah complètement. Ouais. Et c'est par cette idée du conte, de l'initiation, des thèmes forts de Mozart, comme ça, de la découverte de l'autre, de la découverte de soi-même, de l'initiation, de l'expérience, qu'on est rentré dans l'œuvre.
Et la question de la couleur musicale et donc la couleur de la langue, comment vous êtes pris? Parce qu'il y a la langue chantée de Mozart, mais il y a aussi la langue qui est celle d'Alison Cosson, qui est la librettiste de votre version de Zaïd, qui à part quelques monologues est une langue qui est assez rapide, en tout cas des phrases assez brèves, assez rythmées. Comment est-ce que vous avez harmonisé l'ensemble pour ne pas qu'il y ait un trop grand décalage?
C'est assez rythmé, mais je crois que, enfin, je suis sûre que Alison, dans le travail, a à la fois cherché une théâtralité, c'est-à-dire toujours la question de pas. Enfin, l'opéra, c'est tellement fort que quand on insère des scènes de théâtre à l'intérieur, il faut que ça tienne. Il faut aller comme tenir une note de musique pour prolonger et aller vers un autre air ou proposer un air, enfin, que la musique devienne nécessaire à l'intérieur de ça. Donc, je crois qu'il y a une forme de. Elle a travaillé sur une théâtralité très forte. Et d'autre part, on s'est questionné sur la question de la langue et du 18e, voir comment on pouvait, c'est un allemand ancien, et comment nous, on pouvait jouer de cette ancienneté de la langue en la rendant à la fois 18e et à la fois contemporaine. Et ça, il y a des œuvres assez inspirantes, comme La dispute de Marivaux, où ce sont des jeunes enfants qui se rencontrent pour la première fois, qui découvrent le monde, et à la fois, il y a quelque chose de très écrit, et de très parler, et c'est cette espèce de dichotomie entre les deux qu'on a vraiment essayé de travailler. Voilà. Après, il y a un personnage particulier
Vous avez ajouté un personnage.
Voilà.
Nous une comédienne.
Avons ajouté un personnage qui s'appelle Inzel et qui nous permet tout, je dirais. C'est-à-dire que c'est un peu celle qui introduit, qui correspond chez nous à des personnages comme Sarastro dans La Flûte Enchantée. Où, et d'ailleurs, c'est incroyable, Zaïd, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de résonance avec La Flûte Enchantée. On en parle souvent avec le chef Nicolas Sumon, en se disant que c'est vraiment presque une pré-flûte. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de c'est très intriguant. Donc, voilà, comme un Sarastro, comme un Prospero dans La Tempête, comme le prince dans La Dispute de Marivaux, ces espèces de personnages qui permettent de... comment dire, d'entrer dans le récit, de fabriquer du récit. Et à partir du moment où elle dit « ses enfants sont arrivés sur cette île, je leur ai tout appris », en fait, tout est possible. Ils peuvent parler français, allemand, chanter. Voilà, tout est possible.
Même la fin, puisque aussi ce qui n'est pas parvenu jusqu'à nous depuis 1780, c'est à la fois l'ouverture musicale, les parties à texte, on en a parlé, et puis le dénouement, là aussi, vous avez été très libre pour imaginer avec la librettiste, avec le compositeur Robin Melchior, ce qui allait être la fin de l'histoire.
Oui, c'est ça. En fait, la musique de Robin Melchior, finalement, est très liée à ce personnage de Inzel. Puisqu'il est... Donc, il a écrit une... On ne dit pas une... Enfin, nous, quand on se raconte notre opéra, on ne dit pas une ouverture, on dit plus un prélude. C'est-à-dire qu'on commence avec un prélude avec Inzel, puis la musique. Ensuite, on a un interlude où Inzel reprend la parole au milieu et va provoquer la suite de l'expérience en quelque sorte. Et là, elle est accompagnée par aussi la musique de Robin. Et enfin, elle intervient à la fin, après le quatuor de Mozart, comme un deus ex machina. Et c'est comme si elle leur offrait la possibilité d'une nouvelle langue et la possibilité d'un ailleurs. Et là, ils se mettent à chanter sa langue et sa musique. Et c'est là l'air, enfin, la composition finale de Robin Melchior. Après, ce que ça raconte, il faut venir voir l'opéra. Je ne raconterai pas la fin.
Évidemment, mais la manière dont vous parlez de ce personnage que vous avez ajouté, Louise Vigneault, Inzel, c'est un peu vous sur scène. C'est-à-dire, c'est la metteuse en scène, la fabrication de l'histoire.
Oui, après, moi, je ne mène pas des expériences sur des êtres humains, pas encore. Ou alors sur le public. Non, je ne sais pas. Non, c'est... Oui, oui. Oui, il y a une forme comme ça de démurge au sens de celui qui invente les histoires ou qui met en scène, mais il n'intervient pas sur l'action. C'est-à-dire que c'est un personnage qui mène une expérience. Et mener une expérience, ça veut dire rassembler des éléments et voir ce que ça donne. Donc on est complètement dans quelque chose de nouveau et en effet un regard qui glisse, qui regarde et qui peut intervenir à un moment pour rajouter un élément, mais qui n'intervient pas sur l'action.
C'est la mise en scène qui est votre activité. Comment vous êtes pris justement donc, pour mettre en scène ce Zaïd ? On l'a dit, c'est une île déserte, ce sont des enfants. Il y a ce personnage de comédienne, donc de personnage non chantant que vous avez choisi d'ajouter. Par quelle question, par quel chemin êtes-vous passé pour trouver votre mise en scène ?
Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est que je le trouve très global. Et je trouve que la mise en scène n'est pas que... comment dire, on reçoit une œuvre et on réfléchit à comment la mettre, mais tout est lié. C'est-à-dire que c'est d'abord, la mise en scène est d'abord venue d'une lecture, est d'abord venue d'une envie d'une histoire. Et c'est presque parce que, pour tout vous dire, j'ai vu ces paysages d'île que me sont venues ces idées de réécriture. Que par la réécriture, en fait, tout c'est toujours, comment dire, dès le début, c'est assez passionnant, mêlé entre le plateau, la réécriture, l'invention, la composition. Il y a quelque chose de très, très mêlé.
Vous avez quand même quelques idées à l'origine, mais ça s'est surtout fait dans la fabrique de l'opéra, quand chacun...
Voilà,
quand on a vu, vous avez vu concrètement ce que ça allait donner pour le chant, pour le texte, pour les
acteurs. Voilà, c'est ça. C'était une espèce de... Le mot fabrique est très très juste. Je dirais une réflexion sur ce que c'est que l'opéra et comment on l'invente aujourd'hui et comment on parle aujourd'hui Donc voilà, il y a une... Les Allemands, ils ne parlent pas d'opéra, ils parlent de théâtre parlé. Et c'est vrai qu'il y a cette omniprésence du plateau tout le temps qui a permis l'invention de l'histoire, qui a permis ce personnage Inzel, qui a permis la composition, qui... Voilà, c'est ça. Après, sur le plateau, c'est vrai que pour moi, y a, depuis le début, il y a un rapport à la Lune, un rapport à un ailleurs absolument... autre, un rapport aux esprits. On parle d'Inzel, mais Inzel, pour moi, c'est un esprit, c'est quelque chose d'indéfinissable. Donc, il y avait ce rapport à l'étrangeté, à l'étrange, que j'avais très envie de travailler, à voir comment quelque chose d'absolument étrange nous permet, et d'extérieur, nous permet de plonger au plus profond de nous-mêmes.
Voilà. Justement, cet étrange, cet ailleurs entre Mozart 1780, l'ailleurs de la Turquie n'est pas du tout le même que le nôtre aujourd'hui. Et avec ce que les auditeurs, les spectateurs connaissent de l'ailleurs, de tout l'imaginaire aussi de ce qu'est une île déserte, là, comment est-ce que vous avez trouvé votre ailleurs ?
On l'a trouvé à mi-chemin entre des paysages islandais. Ces espèces de, vous savez, de plages noires, d'îles comme ça très mystérieuses, de la roche volcanique, voilà, quelque chose comme ça d'un peu étrange. Et puis quand je dis la Lune, je crois qu'il y a un peu de ça, de ces images un peu plus de paysages déserts de science-fiction, voilà. On est à la limite du réalisme et de l'irréel absolu.
Ouais, donc loin de l'île déserte, des mers chaudes attirantes.
Ah oui, absolument pas. Nous sommes sur un rocher noir, glacial, dans le noir. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un chemin aussi vers l'ombre et la lumière. Donc on commence vraiment dans cette espèce d'étrangeté du noir. Alors avec peut-être des... Je ne sais pas comment dire... quelque chose d'un peu mystérieux, des lumières au sol, on ne sait pas trop. Et puis petit à petit, on va faire la lumière sur cet objet qui devient peut-être de moins en moins beau, de moins en moins rassurant. Et cette prison qui n'en était pas une juste là, qui était un monde, qui était leur monde, devient petit à petit un objet plus abrupt, plus bizarre, plus laid, et qui donne envie qu'on s'en aille.
Alors, vous avez aussi eu à faire avec l'effectif qui vous est donné et que vous avez choisi pour Zaïd. C'est un petit effectif, 5 personnes, 4 chanteurs, une comédienne. Comment aussi, là, vous avez composé avec cette contrainte qui peut aussi donner de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une multitude de personnages pour raconter une multitude de situations. Hein.
Non, c'est sûr. Après, on en a enlevé. C'est-à-dire que dans le Zaïd voilà, original, il y a un chœur au tout début, mais bon, qui ne nous arrangeait pas dans l'histoire, donc on l'a enlevé. Et puis un autre esclave, Osmine, voilà, qui vient trahir et qui raconte, et là, on l'a remplacé par Inzel. Ouais. Donc finalement, on a reconstitué ce... Ils sont quatre, enfin, il y a les quatre, nous, ce qu'on appelle les quatre enfants, les trois de l'île, Zaïd, Al-Azim et Soliman. Qui ont le même âge, c'est-à-dire que normalement Al-Azim est plus âgé, mais là ils ont le même âge et ils vivent la même expérience. Et Gomat, qui est un nouveau naufragé qui arrive au début de l'histoire et qui va arriver comme un espèce de catalyseur de toutes les émotions qui se sont passées jusque-là et qui va provoquer l'explosion ou les retrouvailles du trio. Ça, c'est l'histoire qui va nous le raconter. Mais c'est vrai que c'est un petit effectif et c'est très, très, très agréable. C'est-à-dire que je dirais que c'est un travail très intimiste. Dans le travail de direction d'acteur, là, si je parle vraiment d'acteur, ça permet d'aller très loin, de pousser les choses, de proposer un vrai cheminement. Et non, je trouve ça un très joli format, en fait. Enfin, en tout cas, pour cette idée d'une expérience où on va ouvrir une boîte et rentrer dans cette boîte et observer les réactions humaines, ça permet vraiment d'aller au cœur de ça avec les interprètes. Et ce sont des très bons interprètes.
En plus, et le fait d'avoir choisi de rajeunir l'âge des protagonistes, d'en faire des enfants, en termes de mise en scène, là aussi, qu'est-ce que ça vous permettait de faire ? Il y a un peu une caricature, s'il y a sur scène des enfants, ça veut dire dans la salle aussi, ça s'adresse à des enfants d'abord ?
Non, je dirais à tout le monde. Enfin, après, en plus, ça des. Oui, je. Moi, j'aime bien penser à tout le monde, donc je me dis que. À partir d'un certain âge, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout. 7-8 ans, mais peut-être avant, je sais pas. Oui, il est possible d'aller voir cette histoire. Après, ça reste quand même une. Je dirais plus adolescent. Dans l'histoire, ils ont 17 ans. C'est la découverte de l'autre, c'est la découverte de soi. C'est, donc, je dirais plus un rapport à adolescent au monde. Mais ma foi, quand on vieillit, c'est tout à fait aussi possible. Et je pense que certaines personnes sont prises dans des barrières qu'ils n'imaginent même pas et des frontières qu'ils n'imaginent même pas. Et la question, c'est comment, justement, par l'autre, on passe ces frontières, on découvre ces frontières et on accepte de les briser ou au contraire, on se retranche derrière.
Et en termes de mise en scène, qu'est-ce que ça a impliqué pour vous d'avoir des jeunes gens sur scène de 17 ans ?
Alors, ils n'ont pas tout à fait 17 ans dans
leur
la
vraie vie. Leur personnage en 17 ans, en tous les cas.
Leur personnage, je dirais que c'est une naïveté au monde. Et naïveté, non pas idiote, mais naïveté au sens de découverte, de premier rapport aux choses. Voilà, c'était plus cette question-là qui m'intéresse. Voilà, de... Après, ils ont toujours été là dans leur monde, donc ils s'y sont habitués, un peu comme des enfants sauvages ou un peu comme le roi des mouches. Voilà, tous ces enfants qui se retrouvent sur cette île et qui s'inventent leur propre monde. Il y a un rapport au jeu, il y a un rapport à l'invention.
Parce que le roi des mouches, de mémoire, c'est quand même très violent comme situation.
Oui, bien sûr, mais il y a quand même... oui, mais en même temps, ce sont des enfants qui survivent sur une île.
Oui, et c'est violent à l'origine.
Voilà, à l'origine. Eux-mêmes, ils ont, nos enfants à nous, ils ont dû survivre sur cette île. Voilà, ils se sont fabriqués leurs propres moyens de survie et ils ont un mode de fonctionnement en société fermée entre trois. Voilà, donc je dirais que c'était cette question-là qui était intéressante. Mais peut-être qu'on pourra le reprendre dans 10 ans, comme Pina Bausch l'a fait avec, que des personnes âgées. Et ça ouais. Sera très intéressant aussi. Je pense que, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a un noyau et comment ce noyau de ressemblance va être explosé. Donc, en effet, ça peut être... Là, on est parti sur de la jeunesse, mais ça pourrait être très, très, très intéressant de travailler avec aussi des personnes très âgées.
Nous enregistrons cet entretien un mois avant la première à l'Opéra de Rennes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire en termes de mise en scène, de décors qui sont en train de se construire? Où est-ce que vous en êtes justement de ce travail et puis de la fixation aussi de votre mise en scène?
Tout et rien. C'est-à-dire que ce qui est assez intéressant avec l'opéra, c'est qu'on est obligé d'anticiper. Ouais. Donc évidemment...
Parce qu'il faut faire des costumes, il faut faire les décors, il faut apprendre les rôles.
Voilà, c'est ça. C'est toujours un rapport au temps. Là, il nous reste en gros 2 semaines de plateau pour finir la mise en scène. Donc évidemment, on a le décor qui en plus vient d'être monté et on arrive au plateau ce soir. C'est tout nouveau. Donc on a le décor, les costumes sont en train d'être finis puisqu'on les aura sur scène à partir du 23 janvier pour travailler avec et pour finir. Donc on a tout, en gros tout, je dirais qu'on a un endroit assez... jouissif du travail, où on a rassemblé tous les ingrédients et on a créé des conditions de liberté pour réussir. Là, on passe au plateau et là, on va tous ensemble faire prendre la mayonnaise. Voilà, je dirais qu'on est à ce moment-là assez agréable de la cuisine où on va aller au bout de la recette.
Voilà, et dégustation pour tout le monde à l'Opéra de Rennes d'ici au 12 février avant Nantes, Quimper et Besançon. C'est votre version de Zaïd que vous avez mis en scène, Louise Vigneault. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Opéra de Rennes.